Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes toujours dans l'attente d'une reprise de la saison des concerts, des vrais concerts en public avec des salles pleines et des applaudissements à tout rompre à la fin. Malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas pour tout de suite. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui le cycle consacré à Mozart, celui que nous avons inauguré la semaine dernière lors d'un premier numéro où nous avons évoqué l'enfance et l'adolescence d'un génie très précoce. C'est Serge Chosy qui m'avait assisté dans l'animation de ce volet initial. Pour le deuxième, c'est un autre Serge qui va me prêter main forte, Serge Krichelski, musicien érudit et bien connu à Toulouse puisqu'il est à la fois oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre En Harmonie, vice-président des Clés de Saint-Pierre et président du festival Musique au Palais. En plus, il adore Mozart, ce qui en fait le partenaire idéal pour animer cette émission à mes côtés. Comme je vous l'avais annoncé, nous allons maintenant procéder par genre pour explorer l'œuvre foisonnante du divin Wolfgang. Aujourd'hui, ça va être les concertos pour piano, un des plus vastes continents de la planète Mozart. Voici un retour arrière qui va nous amener dans la seconde moitié du 18e siècle.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge, merci d'être présent au rendez-vous pour évoquer avec nous les concertos pour piano de Mozart. Il y en a 27 et à ma connaissance c'est de loin le compositeur le plus prolifique du genre. Pour commencer, il est peut-être intéressant justement de rappeler où en était le genre concerto pour piano lorsque Mozart s'en empare au début des années 1770 et plus encore peut-être ce qu'il va en faire, le point jusqu'où il va le hisser au fil des 27 concertos qu'il va composer.
Bonjour à tous, bonjour Eric. Alors effectivement, le concerto n'en était pas très loin, surtout le concerto pour clavier, évidemment, parce que le concerto pour violon, les concertos pour flûte, il y a les Italiens qui sont passés, donc Vivaldi, Corelli, mais c'est Jean-Sébastien Bach qui a commencé à écrire des concertos pour clavier, pour clavecin à l'époque, et qui a laissé à ses fils et à Joseph Haydn un petit ensemble d'une dizaine de concertos qui sont eux-mêmes peut-être d'ailleurs des transcriptions de concertos pour instruments avant ou violon. Donc, concerto magnifique qui déjà commence à utiliser la polyphonie de l'instrument. À cette suite, donc, les fils donc, de Bach et puis des compositeurs comme Joseph Haydn vont reprendre le genre. Et progressivement, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va quitter l'univers du clavecin. On va avoir un nouvel instrument à disposition qui s'appelle le pianoforte, qui est un instrument qui est censé apporter de nouvelles possibilités expressives, en tout cas très différentes du clavecin. Et même si Voltaire n'était pas très tendre avec le pianoforte, c'est un instrument qui est voué quand même à évoluer, et en particulier pendant toute cette époque où Haydn va terminer d'écrire ses concertos, c'était très étonnant, il termine ce qu'on connaît vers 1780, et c'est l'époque où Mozart prend le relais et effectivement porte vraiment au très très haut sommet ce genre du concerto pour piano.
Autre chose que nous devons préciser d'emblée concernant les quatre premiers concertos attribués à Mozart, en fait, on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas entièrement de sa main et qu'ils ont été, semble-t-il, largement inspirés et orientés par son père Léopold.
Voilà, alors comme vous le savez toutes et tous, Léopold a été le premier maître, je pense pas seulement pour la musique, mais de son fils et de sa fille, d'ailleurs Nannerl, mais donc le professeur de Wolfgang, et pour la musique, il était un professeur impitoyable. Il se trouve qu'il a eu un enfant vraiment incroyable, avec lequel il a été très exigeant, très sévère, mais très vite, il a vu des résultats impressionnants et donc il lui a donné à remettre en forme des sonates de compositeurs dont ils avaient entendu les œuvres à Paris, à Londres, à droite et à gauche, et qu'il a donné à son fils Wolfgang comme exercice d'orchestration, d'élaboration de la forme du concerto. Et effectivement, les quatre premiers concertos numérotés comme tels sont en fait des arrangements de pièces de compositeurs allemands. Certains, parfois, il y a un des mouvements qui est de la main de Mozart complètement, parfois retouché par Léopold, dont on trouve sur les manuscrits sa plume à côté de celle de son fils.
Voilà pour la petite histoire. Et donc, le premier concerto pour piano entièrement de la main de Mozart, eh bien c'est le cinquième en ré majeur, le K175 au catalogue. Il date de décembre 1773. Mozart a donc presque 18 ans lorsqu'il le compose. Est-ce qu'on y trouve déjà la trace des grands concertos à venir, Serge ?
Alors, il y a déjà, dans ce concerto qui est en ré majeur, c'est pas anodin, c'est une tonalité qui sera toujours très brillante quand Mozart écrira un concerto, et en particulier pour piano. Il y a effectivement cette solennité, et tout de suite aussi, on va l'entendre, cette vie rythmique, cette énergie, hein, qui est très souvent présente dans les premiers mouvements, et qui sera d'ailleurs après en contraste avec le mouvement central. Il faut rappeler une toute petite chose, le concerto des Vivaldi, et Bach ne contredira pas là-dessus, sont en trois mouvements, donc il y a un mouvement allegro qui est souvent un peu plus long, et un mouvement beaucoup plus méditatif, très mélodique, le mouvement lent, andante ou adagio, parfois, bon, nous allons parler des différentes formes qu'il peut prendre, et puis, pour terminer, soit un rondo, soit un final plus élaboré, parfois avec des variations. Donc, cette forme en trois mouvements, elle est déjà là dans ce concerto numéro 5, qui est le numéro 1, en fait, et donc, Mozart s'y exprime pleinement déjà.
Eh bien, voici un premier extrait dans cette émission, et c'est bien sûr un extrait du concerto pour piano numéro 5 en ré majeur, le premier véritablement composé du début à la fin par Mozart, avec son premier mouvement allegro, interprété par le grand pianiste qu'est Christian Zacharias, accompagné ici par le Radio Symphony Orchestra de Stuttgart, dirigé par Neville Mariner. Le premier mouvement allegro du concerto pour piano numéro 5 en ré majeur 475 de Mozart, interprété par Christian Zacharias, accompagné par le Radio Symphony Orchestra de Stuttgart, sous la direction de Neville Mariner. Un petit commentaire peut-être, Serge, sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors, on a ici un bon exemple de style galant. Donc, c'est une époque où Mozart est pleinement encore dans ce style, qui est un style agréable, facile, qui cherche à plaire aux oreilles qui l'écoutent sans poser trop de questions, on va dire, à l'auditoire. C'est un style qui va être remis en question régulièrement au cours de la vie de Mozart, et en particulier dans ses concertos, puisque, nous l'avons dit, il va explorer véritablement toutes les facettes, on peut dire, de l'affectivité, de l'âme humaine. Il ira très très loin dans certains concertos, mais là, il est encore dans une période un petit peu extérieure, on va dire.
Alors, nous allons faire maintenant un saut de quelques années, de quelques concertos, en nous intéressant au concerto numéro 9, qui lui date de 1777. Entre-temps, vous l'aurez remarqué, il y a eu les 6, 7 et 8, qui ne sont pas sans intérêt, Serge, mais on peut peut-être expliquer pourquoi on ne les a pas retenus, d'une part parce qu'on ne peut pas tous les évoquer, et d'autre part parce que le 9 marque une rupture avec les précédents.
Le 9, oui, marque, c'est une rupture énorme, hein. Vraiment, certains musicologues ont comparé le concerto Jeune Homme à la symphonie héroïque de Beethoven, donc un très très gros bouleversement parce que il se trouve que Mozart l'écrit pour une dédicataire aussi qui est une de ses élèves qui joue très très bien. Il y a beaucoup de choses qui se concentrent comme nouveauté dans ce concerto, le ton, hein, en particulier le ton, c'est-à-dire la manière de faire entrer le soliste très tôt, presque un petit peu conquérant comme ça, la force motrice du troisième mouvement, la manière presque par moment mélancolique, presque tragique tragique du mouvement central que nous retrouverons dans d'autres concertos. Hein. Également l'interruption dans le troisième mouvement, l'interruption de cette force comme ça très animée par un menuet ou d'un coup une autre forme incluse dans le troisième mouvement, qui est d'ailleurs une forme que Mozart a utilisée comme finale intégrale, on peut dire, ou dans ses précédents concertos, c'est-à-dire ceux que vous avez cités, 6, 7, 8, il y a souvent le final est un menuet en fait, donc, et la forme est un petit peu moins intéressante à ce moment-là, mais Mozart va très rapidement s'en éloigner, à moins de l'inclure dans un ensemble plus vaste comme dans le concerto 9.
Une chose qu'on n'a pas précisée, vous l'avez dit, ce concerto numéro 9, on l'appelle aussi concerto jeune homme. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que Mozart était un tout jeune homme à l'époque où il a composé, non, il y a une autre raison.
Alors tout simplement, c'est le nom de sa dédicataire qui se serait appelée donc Victoire Louise.
Louise Victoire, jeune ami.
Voilà, jeune ami.
Avec un Y. Où,
voilà, qu'il aurait rencontré, je crois que c'était une connaissance ou une fille d'ami.
Une pianiste, apparemment c'est la fille d'un danseur dénommé Jean-Georges Nauvert, qui était un grand ami de Mozart.
Oui, Jean-Georges Nauvert, qui apparemment est un des fondateurs quand même du ballet moderne, mais dont la date de naissance est la journée internationale de la danse, le 29 avril.
Voilà.
Mais oui, cette pianiste excellente, d'ailleurs on en reparlera, Mozart a souvent dédié
à des femmes.
Certains de ses concertos jeune homme extraordinaires.
Voici un extrait du concerto pour piano numéro 9, Jeune homme de Mozart, le très beau premier mouvement Allegro, et c'est une version de la pianiste japonaise Mitsuko Uchida, accompagnée par l'orchestre de Cleveland. Premier mouvement du concerto pour piano numéro 9, Jeune homme de Mozart, interprété par la pianiste britannico-japonaise, parce qu'elle a les deux nationalités, Mitsuko Uchida, accompagnée par l'orchestre de Cleveland. Nous allons faire un nouveau saut dans la liste des concertos pour piano de Mozart, puisque nous allons passer directement au numéro 17, en enjambant allègrement les 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Encore une fois, nous avons fait ce choix parce que le temps nous est compté, mais il y en a tout de même quelques-uns qui auraient mérité qu'on s'y attarde, Serge.
Oui, beaucoup, beaucoup, puisqu'en fait, alors il y a un événement important à partir de 1781, c'est l'arrivée de Mozart à Vienne. Vous savez donc que Mozart, natif de Salzbourg, il y a une charge auprès de l'archevêque Colloredo. Sauf que Mozart, ça ne convient pas forcément et il n'a qu'une idée, c'est de conquérir la capitale. Alors quand il arrive à Vienne, il a un gros travail à faire, c'est conquérir le cœur et l'esprit des habitants de Vienne, des Viennois, qui sont pour lui vraiment la quintessence de ce que les amateurs de musique peuvent représenter. Donc il arrive, rapidement il fait la connaissance de Joseph Haydn, qui sera un des premiers à le reconnaître comme vraiment le plus grand compositeur vivant ou austro-allemand, mais en tout cas probablement dans le monde musical de l'époque. Et par le biais du concerto pour piano, il se met à chercher à conquérir l'esprit et le cœur des Viennois. Alors, il y a le concerto numéro 10, après le jeune homme, qui est un concerto pour deux pianos. Mozart aura écrit également le 7, si je ne me trompe pas, qui était d'abord pour trois, puis ensuite arrangé pour deux pianos. Donc, comme Jean-Sébastien Bach, il a écrit pour plusieurs claviers en même temps. Donc, à partir du 11, on a une série donc, de trois concertos, 11, 12, 13, qui sont très beaux, qui sont de 1782, donc cette année, qui est l'année également de l'enlèvement au sérail. Et dans laquelle on trouve des concertos qui peuvent être facilement joués avec des formations orchestrales beaucoup plus petites, c'est-à-dire qui prévoient un esprit un petit peu musique de chambre, avec une partie de piano qui se développe. Hein. On va voir au fur et à mesure de cette série de concertos que ce qui tient au cœur de Mozart aussi, c'est d'incorporer des éléments symphoniques. Et ce qu'on a entendu de la longue introduction orchestrale dans le concerto jeune homme, c'est précisément ce qui va devenir de plus en plus une introduction orchestrale très développée, parfois très brillante, qui laisse attendre la star, le soliste, le personnage principal, qui est le pianiste, et le piano, la sonorité du piano. Donc ces trois concertos, 11, 12, 13... très beau, avec déjà un concerto à la majeure, nous reparlerons de la tonalité de la majeure, c'est le numéro 12. Ensuite, on arrive au 14, donc on arrive à une année incroyable qui est l'année 1784, où Mozart n'écrira pas moins de 6 concertos, du 14 au 19, sachant que précisément, il a comme objectif de participer à l'organisation de concerts où il joue tous ses concertos, où il se produit lui-même, il est un excellent pianiste et un excellent improvisateur, en plus d'être un bon violoniste et altiste. Donc, il produit ses concertos, il les compose, il les joue en probablement modifiant un petit peu au moment du concert le texte que nous connaissons. Il rajoutait des ornements, nous avons concerto 14, 15, 16, concerto sublime, vraiment déjà splendide. Le 16, très brillant. Alors là aussi, on retrouverait majeur avec les trompettes, les timbales, toujours une tonalité, une couleur de gamme qui est la couleur de l'apparat. Et on a déjà cette exploration des différentes facettes de la tendresse, l'humour, la nostalgie, la mélancolie. Et je crois qu'Éric, vous allez nous amener au concerto suivant.
Alors, on arrive au 17, effectivement. Donc le 17 en sol majeur K453, composé au début de cette fameuse année 1784, particulièrement féconde. Pourquoi il est si important dans l'œuvre du compositeur ?
Alors, il est très important parce qu'il apporte, là aussi, il franchit un pas supplémentaire, un peu différent du concerto jeune homme qui avait une énergie très très juvénile, mais là ce qui est intéressant c'est qu'il augmente l'effectif orchestral. C'était déjà en germe dans le 15 en particulier avec une flûte et deux bassons, et on a ces couleurs très particulières qui inspirent à Mozart des idées musicales, des mélodies qui sont magnifiques, un dialogue entre le soliste et l'orchestre qui sont particuliers, un mouvement aussi qui a une spiritualité particulière, hein, comme ça une sorte un petit peu de suspension de la mélodie, un dialogue très raffiné entre le soliste et l'orchestre, un final quasiment, on peut dire, un final d'opéra bouffa. Bon, c'est l'époque où après l'enlèvement au Serra, Mozart commence à se préparer aux noces de Figaro, qu'il écrira en 1786. Une série, là aussi, hein, concerto 17, 18, 19, sont souvent à prendre dans un seul souffle.
Une espèce de trilogie.
Une espèce de trilogie, comme on avait eu en 1782 les 11, 12 et 13, comme on aura plus tard d'autres groupes dont nous reparlerons.
On va en parler.
Voilà. Oui. Mais le 17, il est splendide, et bon, à ceux qui ne le connaissent pas en entier, nous recommandons largement d'y aller en détail.
Alors, la dédicataire, c'était de nouveau une jeune pianiste, Barbara Ployer, qui apparemment était une des élèves préférées, si ce n'est l'élève
préférée. Très douée, et voilà, absolument.
Et qui avait créé le 14 aussi, je crois.
Voilà, premier concerto pour Babette Ployer.
Aussi.
Et voilà, qui aussi était compositrice, c'est-à-dire que même si elles sont à cette époque encore un petit peu dans l'ombre des compositeurs, on trouve beaucoup de femmes, évidemment. Nous sommes aussi à l'époque de la Révolution française, qui écrivent. On aura Maria Teresa von Paradis, qui sera également peut-être la dédicataire du numéro 18, qui sera également chanteuse, bien qu'aveugle malheureusement, mais chanteuse et compositrice. Donc toutes ces dames avaient de grands talents.
Une petite chose qu'on n'a pas dite, mais qui me semble intéressant de raconter, il y a une petite histoire à propos d'un étourneau concernant le troisième mouvement.
Oui, alors l'étourneau de Mozart est un des premiers peut-être, ou un des oiseaux qu'il a eu et qu'il a...
Il adorait les oiseaux.
Il a choyé, voilà. Il a été très, très...
Il adorait les animaux et notamment les oiseaux.
Très ému, donc, d'avoir ce petit animal à côté de lui, également de le voir mourir, et il l'a fait accompagner d'un cérémonial...
Un cortège funèbre.
Cortège funèbre, etc. Voilà. Et donc, cet étourneau, apparemment, avait appris une mélodie que Mozart lui avait probablement sifflée, et il l'a rapidement... un petit peu modifié, et ça lui a inspiré très probablement la mélodie
du final de
ce concerto, qui est un final à variation. Alors ça aussi, c'est un trait un petit peu particulier, parce que c'est pas si fréquent. Il y a très souvent des finales à variation dans les symphonies de Haydn, beaucoup plus rarement chez Mozart. Par contre, dans ses concertos, il y a quelques-uns des concertos, on verra tout à l'heure aussi avec le 24, mais où il se donne vraiment un grand plaisir de... Et alors là, on parlait de l'esprit de l'opéra, et de l'opéra bouffa en particulier. On a des couleurs extrêmement variées, très très différentes à l'intérieur de ce mouvement.
Nous allons justement écouter maintenant le début du troisième mouvement Allegretto du concerto numéro 17 en sol majeur K453 dans une version interprétée par le pianofortiste australien Christian Bösundenhout accompagné par le Freiburger Baroque Orchestra. Troisième mouvement Allegretto du concerto numéro 17 en sol majeur K453 interprété par le pianofortiste australien d'origine sud-africaine Christian Bösundenhout accompagné par le Freiburger Baroque Orchestra. Il faut qu'on dise un mot sur l'interprète et son instrument, Serge, parce que c'est du pianoforte.
Je vais en parler juste sur le concerto. Ceux qui connaissent bien la flûte enchantée auront peut-être un petit souvenir des airs de Papageno à travers cette mélodie du concerto 17, et c'est vrai que l'histoire de l'oiseau n'est pas innocente. Ceux qui connaissent connaissent déjà un petit peu ce concerto auront peut-être remarqué que les variations sont très souvent ornementées, voire augmentées d'improvisation. Alors il faut dire que c'est un des traits de caractère de l'œuvre de Mozart. On a parlé tout à l'heure du fait que nous n'avions que ses partitions et malheureusement plus son jeu. On a quelques témoignages comme quoi il modifiait à chaque concert l'interprétation de ses propres œuvres en rajoutant, il était comme Jean-Sébastien Bach et Beethoven, un très très grand improvisateur, en rajoutant des choses suivant l'humeur qu'il avait. Donc ce pianiste, excellent pianofortiste, a choisi de prendre cette voie et d'essayer de réinventer cette manière d'improviser. Alors l'instrument sur lequel il joue, effectivement, c'est donc le pianoforte, c'est cet instrument qui a eu cette période vraiment de plein emploi à partir de 1760-65. Alors il faut remonter à Gottfried Silbermann, qui était le facteur d'orgue de Jean-Sébastien Bach, qui avait commencé à construire des pianofortes. Bon, Bach n'avait pas été convaincu, mais en tout cas il avait transmis ça au Viennois Stein puis Walter, qui avait mis vraiment sur pied et stabilisé la facture du pianoforte avec des mécaniques viennoises qui sont des pianos très légers, d'une facture beaucoup plus fine encore à l'époque que nos pianos modernes. Absolument, la sonorité, vous l'avez entendu, est très différente, mais c'est un jeu avec beaucoup d'harmoniques, un peu plus percussif peut-être, qui peut aussi se mêler très bien à un orchestre. Donc cet instrument, Mozart l'a pratiqué quasiment toute sa vie. Il a abandonné le clavecin assez rapidement, mais il a écrit tous les grands concertos dont on va parler pour cet instrument. Il se trouve que c'est un instrument qui a été lui-même rapidement détrôné à partir de 1790-1800. On a eu des facteurs comme Erard, qui était un Français, qui s'est mis à construire des pianos plus grands, et Beethoven a lui-même eu affaire à, évidemment, au début de sa vie, au même piano que Mozart, c'est-à-dire Stein ou Walter, mais rapidement a eu des pianos beaucoup plus grands et plus lourds.
Alors après ce 17e concerto, Serge, vous teniez à ce qu'on écoute une pièce de Mozart composée peu après, en mars 1784, mais qui n'est pas un concerto. C'est le quintet pour piano et vent K452. Au-delà du fait que le compositeur le considérait comme une des plus belles choses qu'il ait faites de sa vie, pourquoi vous avez souhaité qu'on l'évoque ?
La raison principale, je l'ai déjà évoquée en parlant de l'instrumentation du concerto 17, c'est-à-dire que progressivement, Mozart va écrire des concertos dans lesquels il ne pourra plus se passer des instruments avant, et apparemment un petit peu en souvenir de ce qu'il avait connu et entendu avec son père Léopold, il s'est mis à développer un très grand amour des instruments avant. Avant même de connaître le clarinettiste pour lequel il écrira le concerto à la fin de sa vie, Anton Stadler, il écrit des parties magnifiques pour les hautbois, les flûtes, les bassons, les cors. Dans tous ses concertos, il les fait dialoguer. Il trouve des mélodies parfaitement adaptées qui finalement font scintiller un petit peu cette orchestration, parfois de façon très très subtile, très fine. Hein. Bon, c'est un petit peu un laboratoire d'instrumentation dans lequel il mêle la sonorité du pianoforte et de ses instruments avant. Il a eu l'imagination, l'idée géniale d'écrire une pièce de musique de chambre pour piano et quatre vents, un hautbois, une clarinette, un basson, un cor, exactement dans cette année 1784, qui est en plus une œuvre qu'il considérait comme une de ses plus réussies, et elle sert un petit peu de complément à ce corpus de 27 concertos.
Nous écoutons maintenant le premier mouvement du quintet pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson K452 de Mozart. Thank you. le premier mouvement du quintet pour piano, bois, clarinette, cor et basson K452 de Mozart, œuvre magnifique que nous voulions faire entendre dans cette émission, et nous allons poursuivre en dérogeant de nouveau à notre thème principal du jour, puisque si cette fois-ci nous allons bien écouter un concerto pour clavier, il n'est pas de Mozart, mais de celui que le jeune Wolfgang appelait Papa Haydn. On sait que les deux compositeurs étaient liés par une grande affection et une grande admiration mutuelle, et là Serge, vous avez souhaité nous faire écouter le concerto pour clavier en ré majeur, cette fameuse tonalité en ré majeur de Joseph Haydn. Pourquoi ce choix ? En raison peut-être de la forte présence des instruments avant aussi.
Non, alors absolument pas. Bon, d'abord, c'est un concerto que j'aime particulièrement depuis très très longtemps, et sur la dizaine ou douzaine de concertos pour piano que Haydn a écrit, c'est celui qui se détache. Chronologiquement, ce serait le dernier, et il a eu toujours beaucoup de succès. Bon, il est très très réussi, les trois mouvements sont absolument charmants et très vifs. Bon, alors le côté hongrois que nous allons entendre aussi, bon, évoque le fait que Haydn a été très proche de la famille Esterházy, a vécu tout près de la Hongrie et il s'en est très bien servi dans ce mouvement. Moi, j'ai quand même l'impression, il faudrait vérifier, mais que Haydn a très vite compris au début des années 80 qu'il avait affaire à un compositeur qui maîtrisait le clavier et l'écriture du concerto beaucoup mieux que lui. Alors, il s'est tourné, bien entendu, vers d'autres choses avec une très très grande réussite, mais les autres concertos sont, ce que j'en connais, un peu moins intéressants. Celui-ci a une vivacité particulière. Il faut dire que Mozart, dès qu'il a connu Haydn, il y a eu un dialogue véritablement qui s'est instauré entre deux, notamment, par exemple, à travers le quatuor à cordes. Bon, ils jouaient ensemble des quatuor à cordes. Haydn était au second violon, Mozart à l'alto, et Mozart a écrit un cycle de six quatuors dédiés à Joseph Haydn, qu'il aurait apparemment appris à écrire en écoutant et en connaissant les quatuors de Haydn. Donc il y a cet échange constant. Donc c'était une manière d'évoquer Haydn et son concerto.
Pour illustrer ce que vous venez de dire, voici le troisième mouvement rondo à la hongroise du concerto en ré majeur de Joseph Haydn, interprété par la grande pianiste espagnole Alicia de la Rocha. Le troisième mouvement, rondo à la hongroise du concerto pour clavier en ré majeur de Joseph Haydn, interprété par Alicia de la Rocha, merveilleuse pianiste du siècle dernier. Retour maintenant à Mozart et à ses concertos pour piano. Après le 17e, nous allons laisser de côté, à tort ou à raison, les concertos 18, 19 et 20, pour nous intéresser maintenant au numéro 21 en ut majeur, le K467 composé à Vienne en mars 1785. Peu après le 20e d'ailleurs, c'est aussi un des plus joués, un des plus célèbres grâce à son superbe mouvement lent, l'Andante, qui doit compter parmi les mélodies les plus connues de Mozart. Alors dites-moi Serge, est-ce qu'il mérite sa renommée, ce concerto 21, et qu'il soit un des plus joués, comme vous le rappeliez tout à l'heure?
Oui, ben, c'est vrai que la caractérisation des mélodies, le côté comme ça, immédiatement aussi, mémorisable, c'est une des choses que Mozart souhaitait. Enfin, il a écrit des choses à son père très précisément là-dessus, sur l'intention qu'il avait quand il écrivait une œuvre, vraiment de toucher un public très large. C'est un équilibre entre la légèreté, le côté très direct, hein, et également un raffinement qui est toujours là, avec cette couleur très particulière, les violons avec sourdine dans le mouvement lent, et puis la flûte, les hautbois.
Tout de suite, un extrait du célèbre deuxième mouvement andante du concerto numéro 21 en ut majeur K467, dans une interprétation de Murray Peraya avec l'English Chamber Orchestra. Deuxième mouvement andante du concerto numéro 21 en ut majeur K467 interprété par Murray Peraya avec l'English Chamber Orchestra. On en arrive au concerto numéro 22 en mi bémol majeur K482, composé lui en décembre 1785 toujours à Vienne. Il est donc contemporain des Noces de Figaro par exemple. Il est peut-être moins connu, moins joué sans doute que les 21 et 23, mais vous teniez absolument à en parler et même à le défendre.
Bah, c'est-à-dire que vous me demandiez si le 21 méritait sa renommée. Il y a toujours un petit peu un effet de mode. Hein. Bon, il y a peut-être ce côté comme ça plus direct, plus amène, je l'ai dit. Hein. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on est dans une période où il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les chefs-d'œuvre. Enfin, chaque œuvre est en son genre splendide, magnifique, incroyable. Bon, les superlatifs manquent, mais après, c'est une question de goût. Après, les organisateurs de concerts, les interprètes, parfois, se fixent sur certaines œuvres. Le public veut entendre certaines œuvres et on en vient à négliger mi bémol majeur, par exemple. On peut dire que c'est la tonalité du quintet de tout à l'heure, c'est la tonalité du concerto jeune homme, c'est une tonalité un petit peu plus solennelle. On n'entendra pas le mouvement lent de ce concerto qui est magnifique, qui est en do mineur, une tonalité beaucoup plus sombre, la tonalité relative mineure. Voilà.
On parlait de trilogie tout à l'heure. Le 22 inaugure une sorte de trilogie aussi, lui aussi avec les 23 et 24.
Oui, bon, on parle beaucoup de trilogie, notamment pour les trois dernières symphonies, 39, 40, 41. En fait, il y a quand même une communauté dans le temps, dans l'écriture. On a parlé tout à l'heure des concertos 11, 12 et 13 qui ont tous été écrits dans un temps assez court en 1782. Donc Mozart, c'est le cas très souvent, écrit presque un peu aussi comme Beethoven, plusieurs œuvres en même temps. Et on a entendu le 21, vous allez voir que le 22 est d'un caractère très différent. Et il a besoin, en même temps qu'il écrit le 21, d'un contrepoids, peut-être, à cette nostalgie, à ces idées plus mélancoliques qu'on entend dans le mouvement lent du 21. Alors il y a quelque chose d'un petit peu plus martial, éventuellement, au tout début en tout cas, mais en même temps il y a une écriture très très raffinée. Donc les mots sont toujours nous emprisonnent hein, très rapidement.
Voici le début du premier mouvement allegro du concerto numéro 22 en mi bémol majeur K482. Il s'agit encore d'une version de Christian Bezuidenhout avec le Freiburger Baroque Orchestra. Thank you. Le premier mouvement Allegro du concerto numéro 22 en mi bémol majeur K482, interprété au pianoforte par Christian Bezuidenhout, accompagné par le Freiburger Baroque Orchester.
Alors un tout petit mot, alors on a parlé de mi bémol majeur, c'est la tonalité de la flûte enchantée, hein, cet opéra. C'est l'époque, peu de temps après que Mozart soit devenu franc-maçon, et vous avez évoqué la question d'une trilogie entre le 22, 23, 24. Effectivement, mi bémol majeur, bon, les tonalités, j'en parle un petit peu, c'est une chose importante pour les compositeurs qui ont dans l'oreille, hein, l'oreille absolue des compositeurs, des idées musicales qui viennent avec la gamme. Hein. Vous savez, la tonalité, c'est tout simplement changer de gamme, donc aller de Do majeur à Ré majeur, un degré au-dessus, un degré en dessous pour ci ou là. En tout cas, les compositeurs entendent des affects, surtout à cette époque, en même temps que la gamme, que la tonalité. Là, mi bémol majeur, 3 bémols, La majeur, le concerto suivant, 3 dièses, Do mineur, le 24, 3 bémols également. Voilà, l'idée du 3, de la maçonnerie, peut-être que c'est une idée qui sous-tend cet ensemble de 3 concertos. On va voir à quel point le concerto suivant est différent, hein, mais vous avez pu entendre en tout cas l'importance croissante de l'introduction orchestrale qui devient quasiment symphonique.
Et nous enchaînons tout naturellement avec le 23e concerto, le K488 en La majeur, composé par Mozart au printemps 1786 à Vienne. Alors c'est peut-être le plus célèbre et le plus joué de tous, notamment à l'instar du 21e, grâce à son splendide mouvement lent au cœur de l'œuvre, ce très bel adagio d'une infinie tendresse que nous connaissons et aimons tous. Et en dehors de ça, je vous pose la même question que pour le 21e, est-ce que ce 23e concerto mérite sa gloire et sa renommée, Serge ?
Oui, oui, absolument. Bon, voilà, La majeur, les tonalités qui termineront la vie de Mozart avec toutes les œuvres pour clarinette. Ce mouvement lent qui est dans une tonalité rare, fa dièse mineur qui est extrêmement mélancolique et vraiment poignant. Hein. Et le piano commence tout seul dans une sorte comme ça de
déploration, de
silence.
De
voilà, voilà, voilà. C'est très prenant. Hein. Bon, entre deux mouvements qui sont limpides, enfin le premier mouvement extrêmement doux et tendre aussi, et puis le troisième qui nous emmène dans des régions qui sont proches des Noces de Figaro, hein, aussi le final de ce concert. Au 23.
Alors ce fameux deuxième mouvement Adagio, là, on l'entend pas mal au cinéma, notamment très souvent dans le film de Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Et puis ce serait peut-être une sorte de confession de Mozart sur la tristesse de sa vie et sa solitude à l'époque où il a composé cette œuvre. Je ne peux faire autrement que de diffuser maintenant ce fameux et si beau deuxième mouvement Adagio du concerto numéro 23 en La majeure de Mozart. Et nous retrouvons pour cela l'excellente Mitsuko Uchida accompagnée par l'orchestre de Cleveland.
Thank you.
Le deuxième mouvement adagio du concerto numéro 23 en la majeure K488 de Mozart, interprété par Mitsuko Uchida avec l'orchestre de Cleveland. Magnifique version après laquelle nous nous projetons vers le 24e concerto, le K491 qui est en do mineur. Celui-ci, c'est d'ailleurs le seul avec le 20e que Mozart ait composé dans le mode mineur. Il date de mars 1786, une époque où le compositeur traversait de graves difficultés. Il achève donc en quelque sorte la trilogie qu'il forme avec les 22 et 23. Mozart associe clairement le 24e au 23e, et il dit que sa couleur générale, dramatique, exprime selon lui les épreuves et les combats que doit affronter l'homme pour maîtriser cette vie et lui donner du sens.
Oui, on sera très loin, vous allez voir, de la nostalgie un peu lunaire du concerto 23 qu'on vient d'entendre, du mouvement lent, lui aussi en mineur. Hein, bon. Mais tout ce concerto 24, effectivement, est extrêmement écrit, très travaillé, avec des parties de vent magnifiques qui, pour la seule fois, je crois, comportent et des hautbois
et clarinette,
des clarinettes. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un des effectifs les plus importants de tous les concertos de Mozart pour piano. Et voilà, donc effectivement une tonalité globalement tragique avec des variations très très développées dans le final.
Le voici, ce 24e concerto K491 en do mineur avec son très beau troisième mouvement Allegretto, joué par Murray Peraya, qui accompagne ici l'English Chamber Orchestra. Voilà, c'était le troisième mouvement Allegretto du concerto numéro 24 en do mineur K491, interprété par Murray Peraya avec l'English Chamber Orchestra. On continue maintenant avec le 25e, bien sûr, le K503 en ut majeur, composé par Mozart en décembre 1786. Alors, c'est une composition, semble-t-il, pour le public pragois, puisqu'à la même époque, il compose la symphonie 38, celle qu'on appelle aussi la symphonie Prague. Et le 25, c'est pas le plus joué non plus, mais c'est sans doute une des très grandes œuvres des 4-5 dernières années
absolument,
de la vie de Mozart.
Absolument, absolument. Mais là le Mozart revient de temps en temps à son goût, à son écriture pour les concertos pour piano, mais ça n'est plus son genre de prédilection. Bon, il y a des quintettes, il y a ses opéras qui l'occupent toujours, et puis il y a sa situation notamment, hein, le fait que Vienne n'a pas été pour lui la terre promise qu'il espérait, et complètement à l'inverse de ce qu'elle sera pour Beethoven, hein, qui lui n'aura aucun problème à se faire aimer.
Donc il y a un premier mouvement qui est particulièrement brillant et virtuose pour le pianiste là, dans ce 25, mais nous allons écouter le troisième mouvement Allegretto. On va retrouver pour ça Christian Zacharias au piano, un extrait du concerto numéro 25 en ut majeur K503, le troisième mouvement.
Thank you.
C'était Christian Zacharias qui interprétait le troisième mouvement Allegretto du concerto numéro 25 en ut majeur 1503 de Mozart. Nous allons boucler la boucle et terminer avec le 27e et dernier concerto pour piano qui est composé Mozart. Il fut achevé au début du mois de janvier 1791, l'année même de la mort du compositeur. Donc, c'est un concerto en si bémol majeur qui porte le numéro K595 au catalogue. Bien que ce soit donc le dernier des 27, je crois qu'on peut dire qu'il n'apporte peut-être pas vraiment de nouveauté par rapport au précédent, Serge, même si ça reste bien sûr une œuvre importante du répertoire pour piano.
Alors bon, le terme de nouveauté, après, c'est un terme qu'il faut discuter, qu'il faut prendre de façon soigneuse, hein, avec attention. Je dirais que peut-être il apporte presque une dimension nouvelle, la dimension quand même de l'élégie. Hein. Vous allez voir, le ton du premier mouvement est un ton très particulier. On a l'impression que, bon, évidemment, on sait maintenant que c'est la dernière œuvre pour ce genre de Mozart, mais...
Mais peut-être que ça ouvrait encore
moins,
sur autre chose.
Voilà, c'est possible, mais surtout, on sent que la volonté de démonstration est complètement maintenant derrière lui et qu'il écrit ce concerto presque pour lui, hein, pour exprimer une sensation de paix, enfin de sérénité.
Nous terminons donc cette émission avec le dernier concerto pour piano composé par Mozart, le 27e, dont voici un extrait du premier mouvement Allegro, interprété encore une fois par Mitsuko Uchida, accompagné par l'orchestre de Cleveland. Un extrait du premier mouvement Allegro du concerto numéro 27 en si bémol majeur K595 de Mozart, interprété par la grande pianiste anglo-japonaise Mitsuko Uchida avec l'orchestre de Cleveland. Voilà donc, nous concluons cette émission avec le dernier des 27 concertos pour piano composés par Wolfgang Amadeus Mozart, un genre qu'il aura porté au plus haut, comme vous avez pu le constater tout au long de ce numéro. J'imagine que certains de nos auditeurs auront été déçus de ne pas entendre tel ou tel concerto auquel ils tiennent particulièrement. Mais que voulez-vous, nous ne disposons que de 55 minutes, il fallait bien faire des choix. Parmi ceux que nous avons laissés de côté, il y a entre autres le concerto numéro 20 en ré mineur. Eh bien réjouissez-vous, puisque vous allez pouvoir l'entendre ce samedi 6 février à 18h sous les doigts de David Frey, qui va l'interpréter à la Halle aux Grains avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé pour l'occasion par le chef britannique Leo McFall. Il y a aussi au programme la 9e symphonie La Grande de Franz Schubert. Ce concert va être retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Tous mes remerciements à Serge Krichewski qui m'a beaucoup aidé à préparer et à animer cette émission où son érudition a encore fait merveille. Et merci aussi à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité et très bon week-end à tous.